Deuxième partie. Jean Renard s'étudia à paraître le plus tranquille des prisonniers. Malgré ses efforts, cependant, un observateur attentif aurait été frappé de son agitation inaccoutumée. L'amour de la liberté lui faisait battre le cœur, et toute sa volonté était impuissante à dominer sa fiévreuse impatience. Combien elle était loin, cette résignation de surface, dont pendant 10 ans il s'était cuirassé contre le désespoir. Pour cacher quelques instants son absence à la rentrée du soir, il imagina de se faire remplacer par un camarade près de son compagnon de chaîne. Un forçat chaussette, ainsi nommé du léger anneau que les galériens de cette catégorie portent à la jambe, n'ayant plus que quelques jours à rester au bagne, et comme tel découplé, entra pour 3 pièces d'or dans les idées de Jean et consentit à rattacher à son pied pendant quelques minutes la chaîne de celui-ci lorsqu'elle serait rompue. Un peu après 7 heures du soir, Jean profita d'un repos pour scier son ferrement. Grâce à la perfection de sa lime, et quoique la mamnime fût d'une trempe particulière, il s'acquitta promptement de ce travail. Et au moment de la rentrée dans les salles, le forçat chaussette ayant pris sa place, il se blottit derrière une pile de bois. Non loin de lui se trouvait une immense chaudière destinée à un navire en construction. Ce vaste réservoir était placé sur sa base et l'ouverture des fourneaux offrait aux fugitifs un asile impénétrable. Profitant d'un instant favorable, celui-ci s'y glissa sans bruit en emportant un bout de madrier qu'il creusa hâtivement en forme de bonnet et qu'il perça de trous. Puis il attendit, l'œil et l'oreille aux aguets, les nerfs tendus. La nuit tomba. Le ciel chargé de nuages augmentait l'obscurité et favorisait Jean Morenas. De l'autre côté de la rade, la presqu'île de Saint-Mandrier disparaissait dans les ténèbres. Lorsque l'arsenal fut désert, Jean sortit de sa cachette et, rampant prudemment, se dirigea du côté des bassins du carénage. Quelques adjudants erraient encore çà et là. Jean faisait halte parfois et s'aplatissait sur le sol. Heureusement, il avait pu rompre ses fers, ce qui lui permettait de se mouvoir sans bruit. Il parvint enfin au bord de l'eau, sur un quai de la Darse neuve, non loin de l'ouverture donnant accès dans la rade. Son espèce de bonnet de bois à la main, il s'affala le long d'une corde et s'enfonça sous les flots. Quand il revint à la surface, il se couvrit prestement la tête de cette coiffure bizarre et disparut ainsi à tous les regards. Les trous pratiqués d'avance lui permettaient de se diriger. On l'eût pris pour une bouée en dérive. Soudain, un coup de canon retentit. « Oh, c'est la fermeture du port !» pensa Jean Morenas. Mais un deuxième coup, puis un troisième éclatèrent. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était le canon d'alarme. Jean comprit que sa fuite était découverte. Évitant avec soin l'approche des navires et des chaînes des ancres, il s'avança dans la petite rade du côté de la poudrière de Millot. La mer était un peu dure, mais le vigoureux nageur se sentait de force à la vaincre. Ses habits, gênant sa marche, furent abandonnés à la dérive et ne conserva que la bourse d'or attachée sur sa poitrine. Il arriva sans encombre jusqu'au milieu de la petite rade. Là, s'appuyant sur une de ses bouées de fer appelée « corps mort », il ôta avec précaution la borne, le bonnet qui le protégeait et reprit haleine. « Ouf !» se dit-il. « Oh, cette promenade n'est qu'une partie de plaisir auprès de ce qui me reste à faire. » En pleine mer, je n'aurai pas de rencontre à craindre, mais il faut passer le goulet, et là, bon nombre d'embarcations vont de la grosse tour au fort de l'Aiguillette. Ce sera bien le diable si je leur échappe. En attendant, orientons-nous et n'allons pas nous jeter bêtement dans la gueule du loup. Jean, par la poudrière de Lagoubran et le fort Saint-Louis, releva sa position exacte, puis il se remit à l'eau. La tête abritée sous son appareil, il nageait avec prudence. Le bruit du vent qui fraîchissait, pour l'empêcher d'entendre d'autres bruits plus dangereux, il se tenait sur ses gardes et, quelque important qu'il fût pour lui d'être sorti de la petite rade, il n'avançait que lentement afin de ne pas doter la fausse bouée qui le cachait d'une invraisemblable vitesse. Une demi-heure s'écoula. À son estime, il devait être près de la passe, lorsque, sur la gauche, il crut entendre un bruit de rame. Il s'arrêta, prêtant l'oreille. « Oh ! » cria-t-on d'un canot. « Quelle nouvelle ?»« Rien de neuf, » répondit-on d'une autre embarcation sur la droite du fugitif. « Mais jamais nous ne pourrons le retrouver. Oh ! Mais est-il sûr qu'il soit évadé par mer ? Sans doute on a repêché ses habits. Bon, il fait assez noir pour qu'il nous mène jusqu'aux grandes Indes. Hardi, allez, nageons ferme. » Les embarcations se séparèrent. Dès qu'elles se furent suffisamment éloignées, Jean hasarda quelques brassées vigoureuses et fit ramillant vers le goulet. À mesure qu'il en approchait, les cris se multipliaient autour de lui. Les embarcations qui sillonnaient la rade concentrant nécessairement en ce point leur surveillance. Sans se laisser intimider par le nombre de ses ennemis, Jean continuait à nager de toutes ses forces. Il avait décidé en lui-même qu'il se noierait plutôt que d'être repris et que les chasseurs ne l'auraient pas vivant. Bientôt, la grosse tour et le fort de l'Aiguillette se dessinèrent à ses yeux. Des torches couraient sur la digue et sur le rivage. Les brigades de gendarmerie étaient déjà sur pied. Le fugitif ralentit sa marche et se laissa pousser par les vagues et le vent d'ouest qui le drossait vers la mer. La lueur d'une torche éclaira tout à coup les flots et Jean aperçut quatre embarcations qui le cernaient. Il ne bougea plus, le moindre mouvement pouvait le perdre. « Oh, du canot » héla-t-on de l'une des embarcations. « Rien ! En route !» Jean respira. Les embarcations allaient s'éloigner. Oh, il était temps. Elles n'étaient pas à 10 brasses de lui et leur proximité l'obligeait à nager perpendiculairement. « Qu'y a-t-il là-bas ? » cria un matelot. « Quoi ? » répondit-on. « Ben, ce point noir qui nage. Oh, c'est rien, une bouée en dérive. Eh ben, rattrapez-la. » Jean se tint prêt à plonger, mais le sifflet d'un quartier-maître se fit entendre. « Nagez, les enfants, nous avons autre chose à faire qu'à repêcher un bout de madrier. Allez, avant partout !» Les avirons frappèrent l'eau à grand bruit. Le malheureux reprit courage. Sa ruse n'était pas découverte. Les forces lui revinrent avec l'espoir et il se remit en route vers le fort de l'Aiguillette dont la masse sombre se dressait devant lui. Soudain, il se trouva dans les ténèbres profondes. Un corps opaque interceptait à ses yeux la vue du fort. C'était une des embarcations qui, lancée à toute vitesse, se heurta contre lui. Au choc, un des matelots se pencha par-dessus bord. « Oh, c'est une bouée !» dit-il à son tour. Le canot reprit sa marche. Par malheur, un des avirons, frappant la fausse bouée, la renversa. Et avant que l'évadé pût songer à disparaître, sa tête rasée s'était montée au-dessus de l'eau. « Oh, nous le tenons !» s'écrièrent les marins. « Hardi là !» Jean plongea, et pendant que les sifflets appelaient de toutes parts les embarcations dispersées, il nagea entre deux eaux du côté de la plage du Lazaret. Il s'éloignait ainsi du lieu de rendez-vous, car cette plage est située à droite en entrant dans la grande rade, tandis que le cap Brun s'avançait sur la gauche. Mais il espérait donner le change à ses ennemis en se dirigeant du côté le moins propice à son évasion. L'endroit désigné par le Marseillais devait être atteint cependant. Après quelques brasses faites à l'opposé, Jean Morenas revint sur ses pas. Les embarcations se croisaient autour de lui. À chaque instant, il lui fallait plonger pour ne pas être vu. Enfin, ses habiles manœuvres trompèrent les poursuivants et il réussit à s'éloigner en bonne direction. N'était-il pas trop tard? Lassé par cette longue lutte contre les hommes et les éléments, Jean se sentait défaillir. Il perdait ses forces. Plusieurs fois, ses yeux se fermèrent et son cerveau s'emplit de tournoiements vertigineux. Plusieurs fois, ses mains se détendirent et ses pieds alourdis s'enfoncèrent vers l'abîme. Par quel miracle atteignit-il la terre? Il n'eût pu le dire lui-même. Il l'atteignit pourtant. Et soudain, il sentit le sol ferme, il se redressa, fit quelques pas incertains, tourna sur lui-même et retomba évanoui, mais hors de l'atteinte des vagues. Lorsqu'il reprit ses sens, un homme était penché sur lui et appliquait contre ses lèvres serrées le goulot d'une gourde d'où coulaient quelques gouttes d'eau de vie. Le pays, situé à l'est de Toulon, hérissé de bois et de montagnes, sillonné de ravins et de cours d'eau, offrait aux fugitifs de nombreux champs de salut. Maintenant qu'il avait pris terre, il pouvait espérer reconquérir pleinement sa liberté. Rassuré de ce côté, Jean Morenas sentit renaître la curiosité que lui inspirait son généreux protecteur. Il ne devinait pas son but. Le Marseillais avait-il besoin d'un gaillard entreprenant, décidé à tout, ayant le cœur au bout des bras, qu'il était allé le choisir au bagne? Dans ce cas, il aurait fait un mauvais calcul. Jean Morenas était fermement décidé à repousser toute proposition suspecte. « Vous sentez-vous mieux ?» interrogea M. Bernardon, après avoir laissé aux fugitifs le temps de se remettre. « Avez-vous la force de marcher ?»« Oui, » répondit Jean en se relevant. « Eh bien, dans ce cas, habillez-vous de ce costume de paysan que je vais apporter à votre intention. Puis allez en route, nous n'avons pas une minute à perdre. » Il était 11 heures du soir lorsque les deux hommes s'aventurèrent dans la campagne, évitant les sentiers battus, se jetant dans les fossés et le taillis dès qu'un bruit de pas ou celui d'une charrette résonnait au milieu du silence. Quoique le déguisement du fugitif rendît celui-ci méconnaissable, il redoutait une inspection trop attentive. Le costume provençal qu'il avait revêtu, pourtant, pourrait peut-être avoir quelque chose d'emprunté. Outre les brigades de gendarmerie qui sont sur pied dès le premier coup du canon d'alarme, Jean Morenas avait à redouter n'importe quel passant. Le souci de leur sécurité et aussi l'appât de la prime allouée par le gouvernement pour la capture d'un forçat évadé accroissent l'acuité des regards des paysans, la rapidité de leurs jambes, la vigueur de leurs bras. Or, tout fugitif risque fort d'être reconnu, soit qu'habitué au poids des fers, il traîne un peu la jambe, soit qu'un trouble délateur lui monte au visage. Après 3 heures de marche, les deux hommes s'arrêtèrent sur un signe de M. Bernardon. Celui-ci tira d'un bissac qu'il portait sur l'épaule quelques victuailles qui furent avidement dévorées à l'abri d'une haie touffue. « Dormez maintenant, » dit le Marseillais, quand ce court repas fut terminé. « Vous avez à faire une longue route, et il faut ménager vos forces. » Jean ne se fit pas répéter l'invitation, et s'étendant sur le sol, il tomba comme une masse dans un sommeil de plomb. Le jour était levé quand M. Bernardon le réveilla. Tous deux se remirent en marche aussitôt. Il s'agissait plus maintenant de filer à travers champs. Ne pas se cacher, en se montrant toutefois le moins possible, ne pas éviter les regards tout en ne se laissant pas examiner de près, suivre ostensiblement les grandes routes, telle devait être désormais la ligne de conduite à adopter. M. Bernardon et Jean Morenas marchaient depuis longtemps déjà, lorsque ce dernier crut entendre le pas de plusieurs chevaux. Il monta sur le talus pour dominer la route, mais la courbe de celle-ci l'empêcha de rien voir. Cependant, il ne pouvait s'être trompé. Se couchant l'oreille près de la terre, il s'efforça de reconnaître le bruit qui l'avait frappé. Avant qu'il se fût relevé, M. Bernardon s'était précipité sur lui, et en un tour de main, Jean se vit bâillonné et étroitement ligoté. Au même instant, deux gendarmes à cheval débouchaient sur la route. Ils arrivèrent à la hauteur de M. Bernardon, qui maintenait solidement son prisonnier ahuri. L'un d'eux interpella le Marseillais. « Et là, l'homme, que signifie ici ? C'est un forçat évadé, gendarme. Un forçat évadé que je viens de prendre, » répondit M. Bernardon. « Oh, oh !» fit le gendarme. « Celui de cette nuit ? Oh, ça se peut bien, en tout cas, lui ou un autre, je le tiens. Oh, une bonne prime pour vous, camarade. C'est pas de refus, sans compter que ses habits n'appartiennent pas à la chouve. On me les donnera par-dessus le marché. Avez-vous besoin de nous ? » demanda l'un des gendarmes. « Bon, foi, non, il est solidement amarré, je le mènerai bien tout seul. »« C'est au mieux, » répondit le gendarme. « Allez, au revoir et bonne chance. » Les gendarmes s'éloignèrent. Quand ils eurent disparu, M. Bernardon s'arrêta dans un taillis en bordure de la route. En un instant, les liens de Jean Morenas tombèrent. « Vous êtes libre, » lui dit son compagnon en lui montrant la direction de l'ouest. « Suivez la route de ce côté. Avec du courage, vous pouvez être cette nuit à Marseille. Cherchez dans le vieux port la Marie-Madeleine, un trois-mâts barque chargé pour Valparaiso du Chili. Le capitaine est prévenu, il vous prendra à son bord. Vous vous nommez Jacques Reynaud. Voici des papiers à ce nom. Vous avez de l'or, tâchez de vous refaire une vie. Adieu. » Avant que Jean Morenas ait eu le temps de répondre, M. Bernardon avait disparu sous les arbres. Le fugitif était seul sur le bord de la route. Un long moment, Jean Morenas demeura immobile, stupéfait du dénouement de son inexplicable aventure. Pourquoi, après l'avoir aidé dans sa fuite, son protecteur l'abandonnait-il ? Pourquoi surtout cet inconnu s'était-il intéressé au sort d'un condamné que rien ne désignait spécialement à son attention ? Comment s'appelait-il seulement ? Jean s'aperçut qu'il n'avait même pas pensé à demander le nom de son sauveur. Si à cet oubli il n'était plus de remède, cela en somme n'importait guère. L'essentiel était de ne plus traîner les fers qui lui avaient si longtemps meurtri les os. Le reste s'expliquerait plus tard ou jamais. Une chose sûre, en tout cas, c'est qu'il était seul au bord d'une route déserte, de l'or en poche, nanti de papier régulier et aspirant à plein poumon l'air enivrant de la liberté. Jean Morenas se mit en marche. On lui avait dit d'aller du côté de Marseille. C'est donc vers Marseille qu'il se dirigea, sans même y penser. Mais ce fut pour s'arrêter dès les premiers pas. Marseille, la Marie-Madeleine, Valparaiso du Chili, se refaire une vie, pooh, chanson que tout cela. Était-ce pour se refaire une vie dans les contrées lointaines qu'il avait souhaité si fort la liberté ? Non, non ! Pendant son long emprisonnement, Il n'avait rêvé que d'un seul pays, Sainte-Marie des Maures, que d'un seul être au monde, Marguerite. C'était le regret du village et le souvenir de Marguerite qui avait fait le bagne si cruel, les chaînes si pesantes. Et maintenant, ils partiraient sans même essayer de les revoir. Allons donc, mieux vaudrait retourner et tendre l'échine au bâton des gardes-chiourme. Non, revoir son village, s'agenouiller sur la tombe de sa mère, et surtout, surtout, revoir Marguerite, voilà ce qu'il fallait faire à tout prix. Quand il serait en présence de la jeune fille, il trouverait le courage qui lui avait manqué jadis. Il s'expliquerait, il parlerait, il démontrerait son innocence. Marguerite n'était plus une enfant. Peut-être l'aimerait-elle à présent. Dans ce cas, il la déciderait à le suivre. Quel bel avenir s'ouvrirait alors devant lui. Et si au contraire elle ne l'aimait pas, il arriverait ce qui arriverait. Ça n'aurait plus aucune espèce d'importance. Jean, quittant la grande route, prit le premier sentier qu'il croisa, se dirigeant vers le nord. Mais bientôt, il fit halte de nouveau, ramené à la prudence par le désir même de réussir dans son entreprise. Il connaissait trop le pays qu'il traversait et qu'il avait si souvent parcouru dans son enfance pour ignorer que le but qu'il voulait atteindre n'était pas fort éloigné de lui. En 2 heures, il pouvait être à Sainte-Marie-des-Maures. Il importait de n'y pas pénétrer avant qu'il fît nuit noire, sous peine d'être arrêté au premier pas. Jean s'attarda donc dans la campagne et ne se mit sérieusement en route qu'au crépuscule, après un long sommeil et un repas réconfortant dans une guinguette. 9 heures sonnaient, et l'obscurité était profonde quand il atteignit les maisons de Sainte-Marie-des-Maures. Par les ruelles désertes et silencieuses, Jean se glissa sans être vu de personne jusqu'à l'auberge de l'oncle Sandre. Comment s'y introduire? Par la porte? Oh, assurément non. Savait-il qui se trouvait dans la grande salle et si derrière la porte il n'allait pas se heurter à un ennemi? D'ailleurs, l'auberge appartenait-elle toujours à Marguerite? Pourquoi depuis tant d'années écoulées n'aurait-elle pas passé en d'autres mains? Fort heureusement, il avait un meilleur et plus sûr moyen que la porte d'entrée dans la place. Il n'est pas rare que les mâts provençaux possèdent des issues secrètes permettant à leurs habitants d'entrer et de sortir incognito. Ces trucs, plus ou moins ingénieux selon le cas, ont sans doute été imaginés au cours de guerres de religion qui ont mis cette contrée à feu et à sang. Rien de plus naturel que les contemporains de ces époques troublées aient cherché des procédés pour échapper, le cas échéant, à leurs ennemis. Le secret de l'auberge de l'oncle Sandre, secret resté bien certainement ignoré du propriétaire, Jean et Marguerite l'avaient découvert au hasard de leur jeune enfant, et fiers d'être seuls à le connaître, ils s'étaient gardés de le révéler à qui que ce fût. Devenu grand, ils l'avaient oublié à leur tour, si bien que Jean pouvait légitimement espérer trouver le mécanisme intact au moment où il avait besoin de l'utiliser. Le secret consistait dans la mobilité du fond de la cheminée de la grande salle. Comme dans beaucoup de bâtiments de campagne, cette cheminée était immense, assez large et profonde, le foyer minuscule n'en occupant que le centre pour contenir plusieurs personnes à son abri. Le fond en était fait de 2 vastes plaques de fonte parallèles et séparées par un intervalle de quelques décimètres. Ces 2 plaques étaient mobiles et pouvaient pivoter légèrement sous l'impulsion d'une poignée manœuvrée d'une manière convenable. Il était donc loisible à tout possesseur du secret, que rien d'ailleurs ne permettait de soupçonner, de s'introduire dans l'espace ménagé entre les 2 plaques, puis ayant refermé celle qui d'abord lui avait livré passage, d'entr'ouvrir la seconde et de passer ainsi du dedans en dehors du réciproquement. Jean contourna la maison et, en promenant la main sur la surface du mur, trouva sans trop de peine la plaque extérieure. Quelques minutes après de recherche lui firent reconnaître la poignée qu'il sollicita dans le sens nécessaire, et décidément, il en avait été changé. La poignée obéit et la plaque, avec un grondement sourd, s'égarta sous la poussée. Jean s'introduisit par cet hiatus, puis l'ayant refermé, reprit haleine. Il convenait d'agir avec une prudence croissante. Un rayon de lumière filtrait dans la cachette par le pourtour de la plaque intérieure et un bruit de voix venait de la grande salle. On ne dormait pas encore dans l'auberge. Avant de se montrer, il était nécessaire de savoir à qui on aurait affaire. Malheureusement, Jean eut beau appliquer son œil tout autour de la plaque, il fut impossible de rien apercevoir. De guerre lasse, il se décida à l'entrebâiller à tout risque. À ce moment précis, un vacarme s'éleva dans la grande salle. Ce fut d'abord un cri déchirant, un cri d'appel et d'agonie, immédiatement suivi d'une sorte de râle, puis il y eut des halètements pareils à des souffles de forge, comme on pousserait deux lutteurs aux prises qu'accompagna le fracas d'un meuble renversé. Jean, après un court instant d'hésitation, pesa sur la poignée. La plaque pivota, découvrant dans toute son étendue la salle commune de l'auberge. Au moment de s'y élancer, Jean recula sous la protection de l'ombre, emplissant la cheminée et de la fumée de quelques sarments restés dans l'âtre, terrifié par le spectacle qu'il avait sous les yeux. À la lourde table occupant le centre de la salle, un homme était assis, qu'un autre homme, debout derrière lui, étranglait dans un grand effort de tout son être. C'est le premier qui, se sentant saisi par le coup, avait crié d'abord, râlé ensuite. Et c'est de la poitrine du second que s'échappait ce rauque souffle d'athlète s'épuisant à vaincre un adversaire. Dans la lutte, une chaise était tombée. Devant l'homme assis, un encrier et du papier à lettres montraient qu'il était en train d'écrire quand son ennemi l'avait surpris. À portée de sa main, sur la table, une sacoche entrouverte laissait apercevoir les papiers dont elle était pleine. La scène ne durait que depuis une minute à peine. Elle s'achevait déjà. L'homme assis avait cessé de se débattre et l'on ne percevait pas que le halètement du meurtrier. La scène, d'ailleurs, n'aurait pu se prolonger davantage. Le cri de la victime avait été entendu. On s'agitait au dehors. Dans une chambre du premier étage de l'auberge, desservie par une galerie de bois à laquelle on accédait par un escalier prenant naissance dans la grande salle, Jean entendit deux pieds nus tomber lourdement sur le carreau. Quelqu'un se levait là-haut. Encore un instant, une porte allait s'ouvrir et un témoin survenir. Le meurtrier comprit le danger. Ses mains relâchèrent leur étreinte et, tandis que la tête de la victime retombait inerte sur la table, plongèrent dans la sacoche dont elles ressortirent crispées sur une liasse de billets de banque. Puis l'homme bondit en arrière, disparut par une petite porte ouvrant sous l'escalier et qui conduisait à la cave. Une seconde, son visage apparut ainsi en pleine lumière, il n'en fallut pas davantage pour que Jean Moréas, éperdu, affolé, le reconnût. Cet homme, c'était celui qui venait de faire tomber les fers du galérien innocent, qui lui avait remis de l'or, qui l'avait protégé, guidé à travers la campagne jusqu'à quelques kilomètres de Sainte-Marie-des-Maures. C'est en vain qu'il avait supprimé la barbe postiche et la perruque avec lesquelles il avait essayé de modifier son visage. Il restait les yeux, le front, le nez, la bouche, la stature, et Jean ne pouvait s'y tromper. Mais la suppression de la barbe postiche et de la perruque avait une autre conséquence plus surprenante et plus troublante encore. Dans cet homme, auquel était ainsi rendu son aspect naturel, dans cet homme qui venait de se révéler à la fois comme son sauveur et comme un assassin, Jean avait la stupeur de reconnaître son frère, Pierre, jadis disparu et qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. Pour quelle raison mystérieuse son frère et son sauveur ne faisaient-ils qu'une seule et même personne? Par quel concours de circonstances Pierre Morenas se trouvait-il précisément ce jour-là dans l'auberge de l'oncle Sartre? À quel titre y était-il? Pourquoi l'avait-il choisi comme théâtre de son crime? Ces questions se pressaient tumultueusement dans l'esprit de Jean. Les faits y répondirent eux-mêmes. Et le meurtrier avait à peine disparu qu'une porte s'ouvrit au premier étage. Sur la galerie de bois apparut une jeune femme, auprès de laquelle se pressaient deux enfants en toilette de nuit, et qui tenait dans ses bras un troisième enfant tout petit. Jean reconnut Marguerite. Marguerite avec ses enfants. Les siens, de toute évidence. Elle avait donc renié, oublié l'innocent qui, loin d'elle, agissait au bagne. Le malheureux comprit sur le champ l'inanité de son espoir. « Pierre, mon Pierre !» appela la jeune femme d'une voix que l'angoisse faisait tremblante. Tout à coup, elle avisa le corps déroulé, écroulé sur la table. Elle murmura « Mon Dieu !» et descendit précipitamment, son petit enfant dans les bras, les deux autres se bousculant à sa suite en pleurant. Elle courut jusqu'à l'homme étranglé, lui souleva la tête et poussa un soupir de soulagement. Elle ne comprenait rien à ce qui était survenu, mais tout voyait mieux que ce qu'elle avait craint. L'homme mort n'était pas son mari. Au même instant, on frappa rudement à la porte extérieure et plusieurs voix se firent entendre au dehors. Redoutant elle ne savait quoi, Marguerite recula vers l'escalier et, comme un animal, se rapprocha de son refuge quand menaça le danger et resta debout sur la première marche, ses deux enfants cramponnés à sa jupe, tenant toujours le troisième dans ses bras. De sa place, elle ne pouvait apercevoir la porte de la cave. Elle ne vit donc pas cette porte s'entrouvrir, et Pierre Morenas insinuait par l'ouverture sa tête que verdissait une peur bestiale. Mais Jean, par contre, découvrait l'ensemble du tableau. L'homme mort, Marguerite et ses enfants battant en retraite, Pierre, son frère, un assassin, à l'affût et sentant venir, menaçant le châtiment suivant de près le crime. Dans son cerveau, les pensées se précipitèrent en tourbillon. Il comprit. La présence de Pierre, son forfait d'aujourd'hui, l'incomplète accusation de l'oncle Sandre, éclairaient le passé. L'assassin d'aujourd'hui était l'assassin d'autrefois. C'est pour son frère coupable que l'innocent avait payé. Puis, après que le temps eut apaisé le retentissement du drame, Pierre était revenu, il s'était fait aimer de Marguerite et avait une seconde fois détruit le bonheur du misérable qui se désespérait sous la rude férule des gardes-chiourme. Ah, mais tout cela allait finir. J'en avais qu'un mot à dire pour renverser cet échafaudage d'infamie et se venger en une fois de toutes les tortures subies. Un mot, même pas, il n'avait qu'à se taire, à disparaître sans bruit comme il était venu. L'assassin ne pouvait échapper, il était pris. Bientôt il connaîtrait le bagne lui aussi. Et après, ce mot, Jean l'entendit comme si un ironique contradicteur lui prononçait à son oreille. Oui, vraiment, et après? Qu'arriverait-il quand Pierre et Jean seraient tous deux revêtus de la livrée des galères? Cela rendrait-il au second son bonheur perdu? Hélas, Marguerite l'en aimerait-elle davantage, et n'en aurait-elle pas moins aimé cet homme qui tremblait en ce moment de la plus abjecte terreur? Car elle l'aimait de tout son être, le misérable. Sa voix, quand elle avait appelé Pierre, avait crié son amour. Elle l'exprimait encore maintenant par son attitude, debout, étreignant ses enfants dans ses bras, obstruant l'escalier de son corps, comme si elle eût voulu défendre l'accès du foyer contre un péril inconnu mais pressenti. Dès lors, à quoi bon? La vengeance lui rendrait-elle un impossible bonheur? Cela le sauverait-il du désespoir d'y plonger Marguerite à son tour? N'y avait-il pas mieux à faire, laisser à celle qu'il adorait l'illusion de sa vie heureuse, et conserver pour lui la douleur, toute la douleur dont il avait hélas une si longue habitude? À quoi sa triste destinée pouvait-elle être mieux employée? Il n'était plus, ne pouvait plus être jamais rien. La route était barrée devant lui, et rien n'existait plus qui lui fût permis d'espérer. Quel meilleur emploi de son être inutile que de le donner pour le salut d'un autre être qui déjà possédait son cœur, dont la vie serait sa vie, dont le bonheur serait le sien. Cependant, on s'acharnait au dehors, la porte forcée s'ouvrit, quatre ou cinq hommes entrèrent, coururent à la victime, dont ils soulevèrent le visage. « Boudiou !» s'écria l'un d'eux. « Mais c'est Maître Cliquet !»« Le notaire !» s'exclama un autre. Ils s'empressèrent. Monsieur Maître Cliquet fut étendu sur la table, sa poitrine se dilata aussitôt, et un profond soupir sortit de ses lèvres. « Oh, Dieu garde !» dit un paysan, « il n'est pas mort !» On aspergea d'eau froide le visage du notaire, qui ne tarda pas à ouvrir les yeux. Jean soupira tristement. Le meurtre n'était pas complet. La victime ayant survécu, ce ne serait que le bagne pour le meurtrier. Il eût préféré l'échafaud. « Mais qu'est-ce qui vous a arrangé comme ça ?» Maître Cliquet demanda un paysan. Le notaire, qui reprenait péniblement sa respiration, esquissa un geste d'ignorance. De fait, il n'avait pas vu son assaillant. « Cherchons !» proposa un autre. En vérité, il ne leur faudrait pas chercher longtemps. Le coupable n'était pas loin, et d'ailleurs, il allait sottement se livrer lui-même. Comptant en effet profiter du premier désordre pour prendre la clé des champs, Pierre avait ouvert plus largement la petite porte qui l'abritait, et déjà il posait un pied sur le carreau de la salle, prêt à prendre son élan. Sans nul doute, il serait happé au passage, et quand bien même il échapperait à ce danger, il en était un autre qu'il ne pouvait éviter. Nécessairement, il lui faudrait passer devant Marguerite, qui n'avait pas quitté sa place, où elle gardait une immobilité de marbre. Celle-ci comprendrait alors. Or, sauver le coupable était peu de chose, si le bonheur de Marguerite n'était pas sauvé en même temps. Pour cela, il fallait qu'elle pût continuer à aimer celui à qui elle s'était donnée. Il fallait qu'elle ignorât toujours. Qui sait? Peut-être était-il trop tard. Peut-être le soupçon naissait-il déjà derrière ce front que pâlissait une mystérieuse épouvante. Jean sortit brusquement de sa pénombre projetée par le manteau de la cheminée et s'avança dans la manière lumière de la salle. Tous reconnurent aussitôt Pierre et Marguerite, qui fixèrent sur lui des yeux dilatés par l'étonnement, et les cinq paysans, dont les visages eurent une expression complexe, fait à la fois de la sympathie subsistante du passé et de l'horreur invincible qu'aspire nécessairement un forçat. « Ne cherchez pas, dit Jean, c'est moi qui ai fait le coup. Personne ne dit mot, non qu'on ne le crût pas. L'aveu était plausible, du contraire, car qui a tué peut tuer encore. Mais il était si inattendu que La surprise paralysait les poitrines. Cependant, la scène avait changé dans ses détails. Pierre, maintenant, se montrait tout entier hors de la porte et, sans que personne ne fît attention à lui, se rapprochait de Marguerite, qui ne semblait pas s'apercevoir de sa présence. Celle-ci s'était redressée, le visage illuminé de bonheur et de haine, bonheur de voir détruit, à peine formé, le soupçon qu'il avait effleuré, haine pour celui dont le crime avoué était cause qu'elle eût conçu l'abominable pensée. Mais c'est elle, c'est Marguerite que Jean regardait uniquement. La jeune femme tendit le poing vers lui. « Canaille ! » cria-t-elle. Sans répondre, Jean détourna la tête et offrit son bras aux rudes poignets qui s'abattirent sur eux. On l'entraîna. La porte grande ouverte découvrait un rectangle noir que Jean regardait avec passion. Sur le fond obscur, un tableau cruel et doux se dessinait pour lui en très précis. C'était, sous un implacable ciel bleu, un quai tout brûlé de soleil. Et sur ce quai se croisaient, portant de lourds fardeaux, des hommes aux pieds chargés de fer. Mais au-dessus d'eux brillait une éblouissante image, image d'une jeune femme qui tenait un petit enfant dans ses bras. Jean, les yeux fixés sur cette image, disparut dans la nuit.